François Bon, une lecture de Rabelais, Pantagruel, chapitre 2, de la nativité du très redouté Pantagruel. Premier mot, Gargantua. Gargantua en son âge de 484 ans. Alors oui, premier mot, Gargantua. Ça veut dire que Gargantua existe avant Pantagruel, bien sûr, parce que c'est son père. Mais le livre Gargantua, lui, sera écrit et publié en 1534, 2 ans après le Pantagruel. Et honte, honte, honte à toutes ces éditions qui continuent, quand vous en voyez une, non, évidemment, repoussez-la, prétendent imprimer le Gargantua avant le Pantagruel. Non. Alors oui, il y a un Gargantua avant le Pantagruel. Vous rappelez les romans de la Table Ronde. Alors, les romans de la Table Ronde, ça remonte déjà à bien avant, 200 ans avant, pour le moins. Mais les imprimeries continuent, c'est de la littérature populaire. À mesure qu'elle devient là, plus inventif, on aurait la trace, c'est de Mireille Huchon qui a été la pionnière de ce travail en relevant les variations grammaticales. Comment Merlin mena Gargantua en Grande-Bretagne, comment le roi d'Irlande et de Hollande se sépara et assembla son armée pour résister contre Gargantua. Voilà toutes ces chroniques. Il semblerait que dans l'imprimerie Claude Nourry, près Notre-Dame de Confort à Lyon, là où fut imprimé le Pantagruel, on imprimait pour les foires et les colporteurs ces chroniques de Gargantua. Eh bien, il semblerait que le premier geste éditorial dont on ait la trace de François Rabelais, c'est la reprise et la mise en ordre d'une de ses chroniques, celle que imprimera Claude Nourry près de Notre-Dame de Confort à Lyon. Et qu'est-ce que le Pantagruel? C'est trois parties au milieu. On a des farces d'étudiants. Alors, on y reviendra quand on arrivera. Et pour introduire ces farces d'étudiants, il faut savoir qui c'est Pantagruel, qui c'est le personnage de Panurge et comment on le fait introduire dans l'histoire. Et puis ensuite, une sorte de dépli, selon la tradition des chroniques, qui sont la guerre et qui va nous emmener en utopie. Donc un livre construit rigoureusement en triptyque, mais donc qui doit à la fois poser Gargantua pour signifier qu'il existe et en même temps le tenir à distance, puisque non, Pantagruel n'a jamais existé avant Rabelais. Sauf que, Gargantua, en son âge de 484 ans, la chronologie des géants, elle est distendue. On aura toujours chez Rabelais une attention particulière aux distensions et à l'origine du temps, jusque dans le Carlivre. Engendra son fils Pantagruel de sa femme nommée Badebec, fille du roi des Amorotes, en Utopie, laquelle mourut de mal d'enfant, car il était si grand et si lourd qu'il ne put venir à lumière sans ainsi suffoquer la mère. Ouais, la mortalité de ces jeunes femmes, pensez à la sœur de Gustave Flaubert, comment ça va se devenir quelque chose, enfin, comment c'est et ce sera un fléau de société jusque même au début du XXe siècle. Donc un constat, car il était si grand et si lourd qu'il ne put venir à lumière sans ainsi suffoquer la mère. Mais pour entendre pleinement la cause et raison de son nom qui lui fut baillé en baptême, vous noterez que cette année, il y avait une si grande sécheresse en tout le pays d'Afrique pour ce qu'il y avait passé plus de 36 mois sans pluie, avec chaleur de soleil si véhémente, que toute la terre en était aride. et ne fut point au temps de Élie plus échauffé que fut pour l'or, car il n'y avait arbre sur terre qu'il eût ni feuilles ni fleurs. Les herbes étaient sans verdeur, les rivières taries, les fontaines à sec, les pauvres poissons délaissés de leurs propres éléments, vagants et criant par la terre horrifiquement, les oiseaux tombant de l'air par faute de rosée, les loups, renards, cerfs, sangliers, daims, lièvres, conils, belettes, fouines, blaireaux et autres bêtes ont trouvé par les champs mortes la gueule bâillée. Et au regard des hommes, c'était la grande pitié. Vous les eussiez vus tirant la langue comme lévriers qui ont couru 6 heures. Plusieurs se jetaient dans les puits. D'autres, là aussi, encore moi, là vers le milieu, vers les années 1950, mon père était pompier à Saint-Michel-en-Lerme. La tradition du suicide, on se jetait dans le puits. Et les entraînements de pompiers le dimanche t'entraînaient à descendre dans le puits, relever un mannequin qui était tombé au fond pour cause de suicide. D'autres se mettaient au ventre d'une vache pour être à l'ombre et les appels « Homer, Alibante ». Toute la contrée était à l'ancre. C'était pitoyable de voir le travail des humains pour se garantir de cette horrifique altération. Car il y avait proue à faire de sauver l'eau bénite par les églises, qu'elle ne fût déconfite. On y donna tel ordre par le conseil de messieurs les cardinaux et du Saint-Père que nul n'en osait prendre qu'une venue. Encore quand quelqu'un entrait en l'église, vous n'en eussiez vu à 20aine de pauvres altérés qui venaient au derrière de celui qui l'a distribué à quelqu'un la gueule ouverte pour en avoir quelques petites gouttelettes. Comme le mauvais riche, afin que rien ne se perdît. Oh, que bienheureux fut en cette année celui qui eut cave fraîche et bien garnie. Le philosophe raconte, en mouvant la question, pourquoi c'est que l'eau de la mer est salée ? Qu'au temps de Phébus, bailla le gouvernement de son chariot lucifique à son fils Phaéton, le dit Phaéton, mal appris en la reine, savant en suivre la ligne écliptique entre les deux tropiques de la sphère du soleil, varia de son chemin, tant approcha de la terre, qu'il mit à sec toutes les contrées subjacentes, brûlant une grande partie du ciel que les philosophes appellent Via Lactea. Et les Lifrelofres nomment le chemin Saint-Jacques. Ah donc, la terre fut tant échauffée qu'il lui vint une sueur énorme dont elle sua toute la mer, que par ce est salée, car toute sueur est salée. Ce que vous direz être vrai si vous voulez tâter de votre propre ou bien de celle des Vérolés quand on les fait suer ce métoutin. Quand pareil cas arriva en cette dite année, car un jour de vendredi, tout le monde s'était mis en dévotion et faisait une belle procession avec force litanie et beaux prêchants, suppliant à Dieu omnipotent les vouloir regarder de son œil de clément sans tel déconfort, visiblement fut vu de la terre sortir grosses gouttes d'eau comme quand personne sue copieusement. Et le pauvre peuple commença à s'éjouir comme si ça eût été chose à eux profitable, car aucun disait que d'humeur il n'y en avait point en l'air, dont on espéra de avoir pluie et que la terre suppliait au défaut. Les autres gens savants disaient que c'était pluie des antipodes. C'est normal, la pluie traverse la terre, ressort là. Comme Sénèque narre au quart livre, Questionum Naturalium, parlant de l'origine et source du fleuve du Nil. Mais ils y furent trompés, car la procession finit alors que chacun voulait recueillir de cette rosée et en boire à plein godet, trouvèrent que ce n'était que saumure, pire et plus salée que n'est l'eau de mer. Et parce qu'en ce propre jour naquit Pantagruel, Son père lui impose un tel nom, car Panta en grec vaut autant à dire comme tout, et Gruel en langue agarène vaut autant comme altéré, voulant inférer qu'à l'heure de sa nativité, le monde était tout altéré. Là, bien sûr, pour nous, c'est un passage fondamental, parce que Pantagruel, oui, là, c'est le géant fils de Gargantua, il vient au jour, et au détriment de sa mère qui en meurt. Mais Pantagruel, dans la littérature médiévale, on n'a qu'un exemple. Et cet exemple, Pantagruel, est un lutin. Un petit lutin de rien. Mais non, pas du tout un géant. Mais il naît, en fait, il naît là de son nom. Il naît de son étymologie. Deux étymologies qui sont fictives. Car Panta, en grec, veut autant à dire comme tout. Et Gruel, en langue agarène, donc en langue arabe, veut autant dire comme altéré. Vous avez déjà vu des mots qui soient avec un début grec, une fin arabe, qui veut. Bon. Mais ça y est, on a. Pantagruel a son nom. S'il a son nom, il peut être dans le livre. Et voyant en esprit de prophétie qu'il serait quelque jour dominateur des altérés. Ce que lui fut montré à cette heure même par autre signe plus évident. Car alors que sa mère bat de bec enfantait, et que les sages femmes attendaient pour le recevoir, ici, premier de son ventre, 68 trégeniers, chacun tirant par le licol un mulet tout chargé de sel, après lesquels sortirent 9 dromadaires chargés de jambon et langues de bœuf fumées, 7 chameaux chargés d'anguillettes, puis 25 charrettes de pourreaux, d'eau, d'oignons, si beaux, ce qui épouvanta bien les dites sages femme, mais aucune d'entre elles disait « Voici bonne punition, ce n'est que bon signe, ce sont aiguillons de vin. » Avec ce récit de naissance, avec la matrice même du monde, l'origine du monde, là viennent tous ces chariots, ces dromadaires, avec ces viandes, avec ces boissons, avec tous ces légumes, de quoi faire un pot-au-feu géant bien avant qu'apparaisse lui-même le bébé. Alors ensuite, dans Gargantua, on aura aussi un récit de nativité. Lui sortira par l'oreille, vous vous souvenez, enfin, de toute façon, vous le savez d'avance. Mais si vous ne lisez pas le Pantagruel avant le Gargantua, comment ça peut marcher? Ce qui épouvanta bien les dites sages femmes, mais les aucune d'entre elles disaient « Voici bonne punition, ceci n'est que bon signe, ce sont aiguillons de vin. » Et comme elles caquetaient de ces menus propos entre elles, voici sortir Pantagruel, tout velu comme un ours, dont dit une d'elles en esprit prophétique « Ah, il est né à tout le poil, il fera chose merveilleuse, et s'il vit, il aura de l'âge. » Fin du chapitre 2. À vite la suite. À vite la suite.